Chers amis auditeurs de Radio Maria, nous sommes heureux d'accueillir pour notre émission un prêtre témoigne, le Père Jean-Luc Papet, vicaire de la paroisse de Notre-Dame du Bon Conseil, située à Paris dans le 18e arrondissement. Père Jean-Luc, bonjour.
Bonjour.
Merci Père Jean-Luc d'avoir accepté notre invitation à témoigner de votre sacerdoce durant les 20 minutes que nous allons passer ensemble. Mais auparavant, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît?
D'abord, Christophe, un grand merci de m'avoir contacté. C'est très émouvant de venir parler à la radio. Bonjour à tous les auditeurs. Donc, je suis le père Jean-Luc Papet, religieux de Saint-Vincent-de-Paul, une congrégation fondée au IIe siècle pour s'occuper de la jeunesse, tout spécialement et des pauvres. Voilà. J'ai 55 ans. J'ai fêté l'année dernière mes 25 ans de sacerdoce, voilà, et je suis aumônier d'un patronage, et je travaille avec un frère, le frère Rémi, voilà, et on a un binôme pour s'occuper de la jeunesse du quartier, et il y a du travail.
Effectivement, on imagine qu'il y a beaucoup de travail, mais une chose qui nous intéresse également, et nos auditeurs en particulier, concernant, Père Jean-Luc, la question de l'appel et la vocation. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Est-ce que cela a été un éclair fulgurant? Est-ce que cela a été un long cheminement, longuement mûri? Ou comment s'est-il passé pour vous, Père Jean-Luc?
Alors, c'est une question toujours redoutable. Je me rappelle que la première fois qu'on m'avait posé cette question, c'était en 2004. On m'avait demandé de faire un témoignage. Et tellement c'est difficile à raconter. J'ai eu mal à l'épaule pendant les 15 jours avant. Une sorte de brûlure dans l'intérieur de l'épaule. J'en parlais avec quelqu'un ce matin. C'est quelque chose de psychosomatique assez étonnant. Donc, j'étais pas du tout prédestiné à devenir prêtre, même pas chrétien. Donc, je ne suis pas du tout originaire d'une famille chrétienne, pratiquante, qui aurait pu m'éduquer. Voilà. J'ai pas été inscrit au catéchisme. Voilà. Je suis un mélange on pourrait dire du multiculturalisme, de la globalisation. Voilà. Il y a un mélange d'athéisme, de protestantisme, de catholicisme libéral, d'islam. Mon grand-père était musulman. Enfin voilà. Donc c'est un mélange assez incroyable. Et ce qui a fait ma première rencontre avec Jésus-Christ, je crois que c'est quand j'ai 6-7 ans. Je suis chez mes grands-parents et on passe du côté de la famille un peu chrétienne. Et on passe devant un calvaire. C'est les grandes croix dans la campagne. Et je pose la question à ma grand-mère, c'est qui cet homme tout nu sur une croix? Et elle me dit, mais c'est Jésus! C'est qui Jésus? Et pour montrer mon ignorance, quoi, culturelle et religieuse. Elle me dit, c'est le Fils de Dieu. Et là, je me suis mis à rire. Bien sûr, c'est ça. C'est un brigand. Voilà. Et toute la soirée, je l'ai saoulé, Jésus criminel. Elle a entendu que ça, voilà. Donc c'est ma première rencontre avec Jésus-Christ. Pour moi, c'était un mensonge, c'était un criminel. Et puis, vers l'âge de 9 ans, dans le quartier, il y avait un patronage, justement, où je suis aumônier aujourd'hui, quel retour aux sources. Et quand j'étais enfant, il y avait tous mes copains. Et je me rappelle le petit copain musulman qui m'avait dit « Ouais, viens au patronage, c'est super, on joue au foot et tout, on gagne tout le temps. » Et moi, j'étais très, très mauvais perdant, très mauvais joueur. Et là, c'est ce qu'il me faut, quoi. Un endroit où on gagne tout le temps, c'est pour moi. Et donc, j'étais au patronage. Et puis, mes parents m'ont inscrit, en fait, pour jouer au foot. Et puis là, il y avait des causeries faites par un prêtre ou un frère, un éducateur. Et un jour, il explique Jésus-Christ. Il parlait de Jésus. Est-ce que c'était avant Pâques, avant Noël? Et puis là, il dit que, en fait, cet homme-là était très bon et qu'il a été tué. C'était un mensonge. Voilà. Et je me rends compte qu'il a fait que du bien, cet homme-là. Donc c'est là que j'ai découvert que Jésus n'était pas criminel au cours de cette causerie et que tout ce qu'il racontait, c'était des belles histoires. Ça me plaisait beaucoup, l'histoire des saints. Voilà, c'est ma première éducation chrétienne, ce patronage, où j'ai entendu parler de Dieu, de Jésus. Voilà, donc ça, c'est le point de départ de ma vocation. C'est des petites causeries pour tous les enfants du patro où on parle de Jésus. Et qu'on dit que c'est quelqu'un de bien, en fait. C'est pas quelqu'un de méchant, mauvais. Et tout ce qu'il racontait sur lui me touchait. Voilà. Et puis après, au patronage, ça fonctionne comme ça. Il y a, les grands s'occupent des petits. Et comme j'étais très joueur, limite très mauvais joueur, que j'avais un peu de personnalité, l'aumônier m'avait repéré sur la cour. Et il en avait parlé aux frères. Le directeur, et dit « ça serait bien que Jean-Luc, il soit chef de jeu, voilà, qu'il s'occupe des petits, et qu'il aide les animateurs. » Et donc, ils se mettent d'accord, l'aumônier me reçoit, il me dit « Jean-Luc, est-ce que tu accepterais d'être chef de jeu ?» Et moi, je dis « non, pas du tout, jamais, moi, je suis là pour jouer, je ne vais pas m'occuper des autres. » Et il me dit « mais en fait, fais-le, faut me faire plaisir, tu le fais une fois. » Et puis comme cet homme-là avait l'air très bon, tous les gens qui venaient le voir, ils repartaient avec le sourire, ils parlaient bien. Je dis, on va le faire une fois pour lui faire plaisir, et puis après il me foutra la paix. Et puis je m'occupe, ça me rappelle, c'était un ballon prisonnier. Et puis je m'occupe des petits, je les protège de se faire toucher, je leur donne la balle à ceux qui jouent jamais. Et notre équipe gagne, à la fin du jeu, les petits me disent hey « Eh Jean-Luc, c'était super, j'espère que tu reviens mercredi prochain. » Moi, j'ai décidé que c'était mon dernier jeu, donc là, je me sens obligé, et puis je prends goût, c'est super, c'est formidable. Et alors, comment je vais devenir chrétien? En fait, c'est qu'au bout de quelques mois, j'en ai marre. Je sens que c'est bien ce que je fais, mais ça me saoule. Et l'aumônier me fait venir, mais il me dit « Est-ce que tu pries ?» Hein, c'est quoi la prière? Il m'explique. Prie, tu verras que tu auras des forces. Et donc, je me suis mis à prier. Le Notre Père, je commençais à entendre, je l'avais entendu un petit peu. Il m'explique le « Je vous salue Marie ». Voilà, il me passe une petite Bible. Voilà. Et la prière fait effectivement que je commence à prendre goût et c'est plus facile de m'occuper des petits. Et puis, il me dit « Est-ce que tu as fait ta communion ?»« Bah, je sais pas. Est-ce que tu es baptisé ?»« Bah, je sais pas. Bah, renseigne-toi. » Je demande à mes parents et j'apprends que j'étais baptisé. Par hasard, en fait, personne ne le savait, sauf mes grands-parents et mes parents. C'était une tradition, ça avait été fait quand j'étais bébé. Et donc, il me dit, écoute, normalement, quand on est baptisé, on doit faire sa communion. C'est quoi la communion? Il commence à m'expliquer. Il veut m'envoyer au caté, mais au caté, je fous tellement le bazar, je me fais virer. Et il me dit, écoute, je vais te faire un caté spécial. Il me faisait un quart d'heure par semaine, au bout d'un quart d'heure, j'en avais marre. Je lui posais toutes mes questions, je l'agressais avec mes questions athées, mes questions toute ma famille. Et il répondait super bien, philosophiquement, théologiquement. Le gars était au taquet, bonne formation, il avait peur de rien. Et il me donne des bouquins, des machins. Et je vais faire ma première communion à 14 ans. Voilà. Je me rappelle, c'était le 10 mai 81, mes parents ne sont pas venus. Et pourtant, on a ouvert le champagne à la fin de la soirée. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. 10 mai 81, sûrement des auditeurs doivent savoir. Parce que mes parents étaient de gauche. Donc forcément, c'était l'élection de François Mitterrand. Donc on a bu le champagne le jour de ma communion, mais pour moi, c'était pour ma communion. Voilà, c'était un grand jour merveilleux de ma vie. Et puis après, je suis devenu animateur. Les animateurs du patronage faisaient des retraites spirituelles. Et au cours d'une retraite, le prédicateur, un jour, parle de la vocation. Voilà, la vocation. Et est-ce que je serais appelé par Dieu? Et je me dis, si Dieu m'appelle... Et j'avais compris un truc, c'est que Dieu voulait mon bonheur. Et s'il veut que je sois prêtre ou religieux ou je sais pas quoi, c'est pour mon bonheur. En gros, si je veux être heureux, je suis obligé d'accepter, quoi. Et là, je transpire. Je me rappelle très bien. Mais je n'enterre pas l'idée, quoi. Si tu m'appelles, je serai un peu obligé. C'est le seul moyen du bonheur. C'est de faire ta volonté, que ta volonté soit faite. Et puis, petit à petit, j'ai vu aussi des choses horribles autour de moi. Des amis qui n'avaient pas connu le patron, meurent d'overdose. Voilà. Des copines qui ont été violées, beaucoup de violences dans le quartier. Déjà dans les 18e, c'était très violent. Beaucoup de choses qui se passaient qui n'étaient pas belles. Et je me dis, il faudrait des patronages partout. Et à un moment, en discutant avec mon père spirituel, l'aumônier du patron, en parlant avec des gens, je me dis, pourquoi ne pas donner sa vie pour cette jeunesse qui est un peu sacrifiée, personne ne s'occupe d'eux. Et j'ai eu l'envie de proposer mes services à l'église en espérant secrètement qu'ils me refusent. C'est-à-dire, j'ai proposé mes services, j'ai été postulant d'abord dans cette congrégation religieuse qui me plaisait beaucoup, de l'éducative, les pères, les frères, ça se demande l'Église de Saint-Vincent-de-Paul. Donc je suis postulant 2 ans, et puis ils me disent, c'est très bien, continue. Je continue. Puis j'étais heureux. Après, je fais le noviciat, et puis il me dit, moi j'espérais qu'ils me disent, non, tu n'es pas fait pour ça. Et puis il me disait, non, c'est bien. Et puis j'étais heureux. Et après, les vœux temporaires, le diaconal, ça sert. J'étais toujours heureux dans cette démarche. Et voilà, on peut dire que mon appel, c'est une réponse à une grande paix intérieure à l'idée de suivre Jésus. Plus qu'à Jésus t'appelle, ou alors Jean-Luc, c'est moi qui te parle. Non, c'est pas du tout comme ça que c'est passé. Hein. C'est très paisible, c'est une paix très profonde dans le cœur à l'idée de s'engager pour Dieu. Voilà. Voilà un petit peu mon cheminement résumé de ma vocation, Christophe. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou parce que je suis parti un peu dans tous les sens.
Non, un cheminement très, très dense, très, très intéressant. Hein. Les petites causeries autour de Jésus, au sein des patronages qui vous amènent sur cette voie, la prière, le rappel de votre baptême reçu, la première communion à 14 ans, et puis, comme vous le dites, cet appel à une grande paix intérieure qui vous a caractérisé à l'époque. Aujourd'hui, Père Jean-Luc, comment pouvez-vous caractériser l'apostolat que vous menez aujourd'hui? Le grec apostolos signifiant envoyé, chargé de mission. Comment pourriez-vous vous définir à la lumière de cette définition aujourd'hui?
Est-ce que j'ai bien compris la question? Comment je suis apôtre aujourd'hui, quoi? Oui. Comment j'exerce mon ministère?
Oui, de quelle manière?
Alors, comme tout prêtre, je dis la messe tous les jours. Pour moi, c'est le cœur de ma journée. faire venir Jésus, rendre présent sa croix, sa résurrection, le donner en nourriture avec cette promesse de Jésus qui mange ma chair, boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai. Donc pour moi, c'est la base. Toute ma journée est centrée sur l'Eucharistie. Voilà. Et puis, en tant que prêtre, le ministère de la réconciliation. Voilà. Être à l'écoute, dans le secret. Offrir la miséricorde, le pardon. Voilà. Et le lier à la communion. Permettre aux gens d'accéder au pardon de Dieu et à l'Eucharistie. Et c'est tout mon ministère auprès de la jeunesse, c'est de leur faire découvrir la joie d'être pardonné. Et c'est vrai que quand un jeune sort de mon bureau avec un sourire jusqu'aux oreilles et qui dit « je me sens tout léger, père », bah, même si j'ai fait qu'une confession par jour, je suis comblé. Une âme libérée. Vous voyez, le pardon vu comme une libération, comme un épanouissement, comme une réconciliation, comme un nouveau départ, voilà. Une nouvelle page à écrire, avec des belles résolutions. C'est extraordinaire, quoi, ça. Et puis, qui aboutit sur l'Eucharistie, quoi, ce contact, ce cœur à cœur avec Jésus. Voilà. Donc, mon ministère est très centré sur l'Eucharistie, la confession, la catéchèse. Alors, moi, je fais beaucoup de catéchèse de récupération. C'est-à-dire des jeunes qui ne peuvent pas, un peu comme j'ai vécu, hein, qui ne peuvent pas suivre le caté paroissial parce qu'ils sont trop chahuteurs. Donc, moi, je fais des petits groupes. Je demande à des grands aussi, qui ont eu ce cheminement-là, de faire le caté des petits. Et qui ont leur vocabulaire, qui ont leur manière de faire, qui ont des codes que même moi j'ai pas, voilà, qui peuvent faire passer des messages sur l'incarnation et la rédemption avec leur moi-eux, que moi, avec mon langage théologique, ça passe pas. Donc ça, je forme des jeunes. Moi, je leur donne le vocabulaire théologique et eux, ils traduisent. Après, voilà. Ça, donc, la transmission, quoi. Voilà. Tout mon travail, c'est de déléguer la transmission. Aider les gens à devenir des transmetteurs de la foi, de l'éducation, voilà. Et puis, je travaille à fond avec un religieux frère, un religieux de Saint-Vincent de Paul. On est toujours souvent en binôme, père et frère. Et lui s'occupe de tout l'aspect éducatif, concret, avec des choses difficiles, hein, des fois des sanctions, des renvois, hein, que bien sûr, moi, en tant que prêtre, c'est impossible à faire parce que moi, je suis l'homme du secret, on me confie tout. Donc, c'est vraiment le frère, lui, qui est déchargé du ministère de la Réconciliation, qui est vraiment le religieux dévoué pour faire fonctionner le patro, administrativement, éducativement, voilà, qui gère l'équipe d'animation, l'enseignement pédagogique. Voilà. Même si, moi, j'ai un moment hésité à devenir frère. Hein. J'aime éduquer, j'aime animer, mais voilà, je m'interdis souvent d'être animateur. Je m'interdis souvent sauf, bien sûr, s'il y a une bagarre devant moi de gamins, il n'y a personne autour. Mais ils savent, les animateurs, ils n'aiment pas quand je le fais, parce qu'après, un jeune, si je suis intervenu, il ne veut plus me parler. Voilà, donc, voilà un petit peu mon travail sur le patro. Après, je suis aussi vicaire de paroisse, donc des préparations au mariage, des préparations à des enterrements, accueillir des gens, les homélies, tout l'apostolat paroissial. Hein. Même si mon curé, qui est Roger Saint-Vincent-de-Paul, hein, le père Franck, me dégage énormément pour que je sois à fond pour le patro, quoi. Voilà, un maximum, et lui prend au maximum de la paroisse pour m'aider à vraiment... Et on est un peu dans les périphéries, quoi. On est en marge de l'Église, parce qu'on accueille beaucoup de non-chrétiens, pas trop. Tous les ans, il y a des demandes de baptême, de catéchèse, voilà. Et on y va prudemment, avec l'accord des parents, voilà, dans la liberté. Il n'y a aucun prosélytisme, c'est évident, mais en tout cas, une annonce bien posée, qui est ouverte à la liberté, au discernement... avec les parents, voilà, en connaissance de cause. Et il y a un travail fabuleux qui se fait, les familles sont contentes. Hein, et des fois, il y a des parents. Et par exemple, moi, ma maman, dans la dynamique de ma conversion, a demandé le baptême. Voilà. Et puis, j'ai eu deux tantes qui n'étaient pas du tout chrétiennes qui ont demandé le baptême. Voilà. La famille, et quand mon grand-père musulman est décédé, moi, je n'étais pas encore rentré au séminaire, j'ai fait venir l'aumônier aux obsèques. Il y avait les imams et les aumôniers. Il y avait deux imams et l'aumônier. Et il a eu les prières musulmanes et les prières chrétiennes. Voilà. Et la famille savait que cet aumônier, c'était quelqu'un de bien, tout le monde a accepté. Voilà. Voilà. Un peu de mon apostolat, sûrement j'oublie plein de choses.
Oui, Père Jean-Luc, avant d'aborder ce sujet essentiel, nous avons bien compris l'importance de l'Eucharistie, votre ministère exercé auprès de la jeunesse, la délégation de la transmission, le pardon vu comme une libération, tout ça très important. Pourriez-vous, avant que nous abordions le sujet du... patronage, qui est vraiment le sujet clé d'aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre jubilé sacerdotal, car l'année dernière, vous avez fêté votre
25 ans.
Non, de sacerdoce. Ouais, quelques mots à ce sujet.
Quelques mots, bah, c'est très émouvant, parce que 25 ans, c'est un quart de siècle, et j'ai l'impression que j'ai été ordonné hier, quoi. quand il y a une, c'est assez mystérieux, il y a une certaine jeunesse du sacerdoce, quoi. Et puis de voir tous ces gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vous disent trop de bien d'ailleurs, parce qu'on sait qu'on est pécheur, qu'on est fragile, et que les gens qui vous mettent un piédestal, j'aime pas ça, parce qu'il faut pas que le prêtre soit un piédestal. C'est un homme comme un autre qui est ministre de la miséricorde, de l'Eucharistie, mais bon, il doit se sanctifier, mais comme tous les chrétiens, il est pas au-dessus, on est dans la même barque, hein, et c'est Jésus qui dort sur un coussin, mais c'est lui le patron, quoi. Hein. Voilà. Donc voilà, ça a été très émouvant, la famille, tout ça. Les amis, non, c'était très beau. Et j'attends avec impatience les 50 ans de sacerdoce, où j'espérais dire mon nunc dimittis. Voilà, c'est bon, Seigneur, tu peux me rappeler, on arrête. Hein. Je voudrais te rencontrer. Voilà. Mais si vous, qu'on se rencontre avant, attends, amen, amen.
Père Jean-Luc, nous retrouverons avant votre 50e anniversaire de sacerdoce.
Ça, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé.
Parmi les projets qui vous tiennent à cœur, Père Jean-Luc, oui. Le patronage occupe une place particulièrement importante. Également, la séparation du domaine spirituel temporel. Pourriez-vous rappeler pour nos auditeurs ce qu'est le patronage et sous quelle forme il s'exerce chez vous? Et également, peut-être en relation avec cette phrase de Saint-Luc, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » pour la séparation des activités temporelles et spirituelles.
Ah, ça me touche beaucoup que vous présentiez ça comme ça. Je crois que c'est la première fois qu'on me pose la question en ces termes. Effectivement, cette phrase me semble fondamentale. Distinction du temporel et du spirituel. Je crois que c'est un Thomas d'Aquin. Il a fait des textes sur la séparation des pouvoirs, les deux glaives, quelque chose comme ça. Effectivement, au patronage tel que je l'ai connu, le frère directeur, c'est le pouvoir laïque. Voilà. Et le prêtre, c'est le pouvoir spirituel. Et on travaille ensemble. C'est le temporel qui décide, c'est le frère qui décide, mais toujours conseillé, inspiré par le spirituel. Et quelque part, c'est un beau modèle pour réconcilier l'État et l'Église, séparés depuis 1901. Toute cette crise qui a commencé même avant, on peut dire dès le XVIIIe siècle, on sent qu'il y a un problème entre l'État et l'Église, il n'y a plus d'harmonie, on se fait la guerre. Et là, au patron, on réconcilie. J'aime faire ce parallèle, peut-être qu'il est un peu exagéré, mais quand Saint Paul parle de la loi et de la grâce, pour moi, la loi, c'est le pouvoir temporel. Et la loi, elle n'est pas possible sans le spirituel. Si on n'a pas l'aide de Dieu, elle condamne, elle est trop dure. Et la loi, en fait, quand elle est juste et bonne et qu'elle est spiritualisée, c'est-à-dire qu'on est animé par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, elle devient légère. Mon fardeau est léger, voilà, nous dit Jésus. Et quand on travaille ensemble, je pense, et le patron est un bon exemple, je pense, pour faire travailler ensemble le temporel et le spirituel. Ça me touche que vous disiez ça, Randesser, parce que c'est rare que les gens comprennent que c'est ça qu'on vit au patron. Merci Christophe, franchement, je suis presque ému parce que tellement peu de gens en parlent, que vous sachiez ça, je suis surpris, quoi. Voilà.
Merci Père Jean-Luc, et à titre d'illustration, pourriez-vous nous dire quelques mots sur... cette séparation temporelle spirituelle au travers des grandes figures de l'Église telles que Don Bosco, le curé d'Ars, Padre Pio, quelques exemples pour nos auditeurs.
Par exemple, en prenant le curé d'Ars quand même. À un moment, dans mes souvenirs, hein, quand on étudie sa vie, il y a des orphelines qui sont dans le coin. Eh bien, il ne va pas être directeur de l'orphelinat, il va demander à deux de ses filles spirituelles de devenir directrice, en gros. Et lui, il vient que pour confesser, raconter l'histoire et célébrer la messe, voilà. À un moment, il y a des jeunes, ça ne se passe pas bien au village, à Ars, il fait venir les frères de Saint-Gabriel, voilà. Des laïcs à chaque fois. Et lui apporte la confession, l'Eucharistie et l'enseignement. Vous disiez Padre Pio, je crois. Hein. Padre Pio, quand il veut fonder un hôpital qui a un vrai besoin, il va demander à des laïcs de s'en occuper. Et lui, il vient pour visiter les enfants cancéreux, confesser, prêcher, voilà. On disait aussi Don Bosco. Don Bosco, il n'y a pas de frères, mais il y a des coopérateurs. C'est un peu spécial. Il n'avait pas eu la permission d'avoir des frères. Et donc, il y a eu des coopérateurs, mais ils se font appeler frères. Hein. Et il y a eu une évolution. On peut dire, bon, c'est vraiment des frères quasiment maintenant, aujourd'hui, les laïcs. Mais à un moment, quand il n'a pas de frères, il demande à un prêtre des directeurs, mais il n'a pas le droit de confesser 10 km à la ronde. C'est une histoire comme ça, si je me souviens bien. Donc on voit que, parce que le problème du secret de la confession fait que vous ne pouvez plus prendre des décisions d'autorité qui vont engager ce qu'on vous a déjà dit dans le secret, même si vous arrivez à compartimenter. Donc ça, c'est un de mes grands sujets. Je demande aux prêtres de ne pas être directeur de patro. Ça, c'est un de mes grands sujets. Soyez des aumôniers et trouvez des laïcs de confiance, vraiment chrétiens, qui veulent travailler avec vous pour évangéliser. Et là, on fait des merveilles dans ces cas-là.
Tout à fait, la séparation bien indiquée.
Alors, elle est pas. Ça peut arriver que le directeur ou le frère parle de Jésus, bien sûr. Mmh. Et ça m'arrive des fois, je vous dis, il y a une bagarre devant moi de les séparer. C'est pas. Voilà. Mais avoir cette idée-là en tête. Voilà.
Très bien. Père Jean-Luc, avant que nous concluions, puisque nous arrivons à la fin de notre émission, y a-t-il un message particulier que vous voulez adresser aux auditeurs de Radio Maria aujourd'hui?
Alors, moi, qu'ils prient pour l'essor des patronages. Actuellement, il y a tout un mouvement de découverte ou de redécouverte des patronages. Ça fait un tellement bien. C'est une œuvre extraordinaire d'église missionnaire qui peut faire un bien fou. Priez, chers auditeurs, pour l'essor des patronages, des vocations de directeurs, de directrices, de frères, de sœurs qui prennent en main temporellement les patrons et des aumôniers qui se consacrent à l'évangélisation, voilà, et au secret, à l'amour, à l'Eucharistie. Voilà ce que je peux vous dire. Priez pour l'essor des patronages.
Donc nos auditeurs auront bien compris, priez pour l'essor, le développement et le retour des patronages dont le Père Jean-Luc nous a si bien parlé aujourd'hui. Votre témoignage, Père Jean-Luc, nous a permis de mieux comprendre d'une part l'importance d'une séparation entre le sacerdoce dans la sphère spirituelle et les autres activités exercées par les laïcs de la sphère temporelle, et d'autre part, le rôle essentiel joué par le patronage, soutenu, il faut le préciser, par le lancement l'année dernière de l'Union des patronages, dont vous serez sans nul doute une force de proposition dans l'avenir.
Oui, c'est bientôt, on est à fond. Il y a 70 patrons qui sont dans l'incubateur des patronages que fait le Centre Apparent. Enfin, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Là, on sent que c'est parti et on est reparti pour une belle évangélisation.
Chers auditeurs, c'était notre émission Un prêtre témoigne. Notre ami Christophe y recevait le Père Jean-Luc Papé. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.